qu'on puisse être renouvelé, renouvelé dans son amour, renouvelé dans sa grâce, renouvelé dans sa paix, qu'on puisse être renouvelé dans tout ce qu'il a à nous dire, parce que Dieu parle. Il nous parle et il nous fait du bien. Et on est à la fin de l'année. J'aime beaucoup les fêtes de fin d'année. Des gens qui n'aiment pas, moi, personnellement, j'aime bien. Même si c'est très, très fatigant. Et cette année, c'était très, très fatigant. Je crois que je n'ai jamais passé des fêtes aussi fatigantes. Mais je ne veux pas dire que c'était mal, hein. Au contraire. Mais, waouh! Mais qu'est-ce que je suis content. Et je sais que vous aussi, vous avez pu passer des fêtes, peut-être qu'elles étaient moins fatigantes, peut-être encore plus fatigantes. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que vous êtes là. Et si ça réjouit mon cœur, surtout, ça réjouit le cœur de Dieu. Ça, c'est incroyable de pouvoir, après la fatigue des fêtes, de dire, ouais, dimanche, on va venir encore au culte. Il y en a beaucoup qui diraient, wow, on en a assez fait. Mais vous êtes là. Et quelle grâce. Alors moi, je vais vous applaudir. Vous êtes formidables. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir, alors applaudissez-les quand même. Parce qu'ils auraient peut-être voulu venir, mais ils n'ont pas pu venir. Et ce matin, je voudrais continuer ce qu'on avait commencé juste avant Noël, enfin, ou à Noël. Je vous avais dit qu'il y a deux qualités que Dieu recherche chez ses enfants et chez ceux qui le servent. Parce que Dieu veut nous bénir. Et si ces qualités sont dans notre vie, alors Dieu nous bénira. La première des qualités qu'on a vues la semaine passée, c'est la disponibilité. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont disponibles pour répondre à son appel. Disponibles pour faire ce que Dieu attend de nous. Être disponible, on l'a dit, c'est être libre, c'est être vacant, c'est être à la disposition de, c'est être quelqu'un que Dieu peut utiliser. Et il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Abraham, qui s'est rendu disponible pour servir Dieu. Cet homme, il est là dans son pays, en Chaldée, il est heureux, il a sa famille, il a déjà 65 ans, enfin c'est assez incroyable. Et Dieu l'appelle. Il appelle aussi son père. Et Dieu lui dit, Abraham, j'ai besoin de toi. Quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Et sur la parole de Dieu, sur la parole de la foi, il part. Pourquoi ? Parce que la foi, elle parle. Souvent, on a l'impression qu'il n'y a que la parole qui parle, mais la foi, elle parle. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est écrit. Donc la foi, elle nous parle. Est-ce que je suis sensible au langage de la foi ? Est-ce que je suis sensible à la foi de la foi ? Est-ce que je suis disponible ? Abraham ! Raymond !
Oui, bon.
Oui, Seigneur. Quitte ton pays, quitte ta patrie et va là où je te montrerai. Oh. Quel homme de foi, cet Abraham. Il est parti sur la parole de Dieu. Amen. La disponibilité, elle engendre des choses. La disponibilité engendre le courage. Prends courage. Être courageux. Dieu veut que nous soyons courageux. C'est par la foi qu'Abraham, lorsque Dieu l'appela, ou lorsque la foi l'appela, obéit et partit pour un pays, pour le lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il faut du courage pour servir Dieu. Il faut vraiment beaucoup de courage. J'avais un pasteur qui disait toujours, faut vraiment avoir du courage et surtout être culotté pour aller chercher des gens, les mettre dans la voiture et les emmener dans une réunion. Quel courage! C'est une grande qualité, l'audace, le courage. Courageux dans notre comportement, courageux dans notre attitude, courageux dans nos prières. Demander à Dieu des choses précises, des choses qui dépassent tout entendement. Quel courage! Courageux pour aller voir quelqu'un, lui dire « Jésus-Christ veut te sauver. Waouh! Jésus-Christ veut te guérir. » La disponibilité engendre le courage. Et j'aimerais vous parler d'un homme dans la Bible. Je vais prendre un exemple d'une personne qui a en lui beaucoup des qualités que Dieu cherche. Abraham, c'est le père des croyants. David, celui l'homme selon le cœur de Dieu. On en a parlé l'autre jour. Mais il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Élisée. Élisée, avant que je connaisse Dieu, j'avais un oncle qui s'appelait Élisée, un grand-oncle. Et je n'aimais pas son prénom. J'avais jamais entendu quelqu'un s'appeler Élisée. Oh, il n'était pas chrétien, hein. C'était un Italien. Ramoneur. Et il s'appelait Élisée. Et je me disais, ouf, quel prénom. Et un jour, j'ouvre la Bible et je dis, purée, il était dans la Bible. Ça m'a réconcilié avec son prénom. Élisée, c'est quelqu'un de merveilleux. Je vais vous situer un petit peu le contexte de l'histoire d'Élisée. Il y a un homme qui s'appelle Élie. Élie, c'est un prophète. C'est quelqu'un qui parle, qui parle de la part de Dieu aux hommes. Et Élisée, il vit dans un pays qui s'appelle Israël. Vous savez, le pays est divisé. En bas, il y a le royaume de Juda. Au-dessus, il y a le royaume d'Israël. Et Élisée, c'est le prophète d'Israël. Quelqu'un qui est rempli de la puissance de Dieu. Et là, dans ce pays d'Israël, il y a un roi qui s'appelle Achab. Il connaît Dieu. Mais il est très, 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 très partagé, cet Achab. En plus, il a marié une Jézabel. Personne ne s'appelle Jézabel ? Ça va. Il a marié une femme qui s'appelle Jézabel, mais ce n'est pas tellement son prénom qui dérange. C'est que Jézabel, c'est vraiment une femme qui ne supporte pas Dieu. Quel imbécile cet Achab d'avoir marié cette femme ! Je me dis, mais c'est incroyable comme on peut faire eh bien, des erreurs dans la vie. Mais Dieu répare les choses. Alors, malgré qu'il ait marié cette Jézabel qui a tué tous les prophètes d'Israël, mis à part une centaine qu'un homme qui s'appelle Abdias a caché, et puis Élie, sur lequel on ne pouvait rien faire, eh bien, Dieu va se servir de cet homme, Élie, pour essayer de ramener Israël à la volonté de Dieu. Alors, Dieu va faire des choses. Il va amener la sécheresse. 3 ans et demi sans pluie. Waouh ! On l'a eu pendant quelques mois. Enfin, hein, c'était assez douloureux pour certains. Mais ça a duré 3 ans et demi. Résultat, il y a eu la famine. Des moments eh bien, très difficiles, des gens qui mouraient, parce que ben, il n'y avait plus rien, les récoltes ne se faisaient plus. Et alors Achab, lui, il a essayé de retrouver Élie, parce qu'il disait, c'est lui qui trouble les choses. Et Dieu va parler à Élie, et il va lui dire, Élie, maintenant c'est le moment. Voilà ce que tu vas faire, puisque le peuple réclame la pluie, réclame la fin de la sécheresse, voilà ce que tu fais, tu vas prendre le peuple, tu vas aller au-devant d'Achab, et puis tu vas réunir le peuple sur le mont Carmel, et on va prier. Alors fais venir les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, et tous ensemble, eh bien, vous allez prier. Toi, tu prieras l'Éternel, et les autres, ils prieront eh bien, leur Dieu. Les prophètes de Baal, ils sont venus, les prophètes d'Astarté, ils ne sont pas venus. Jézabel a dit, non, n'y allez pas, certainement. Et puis, au moment du sacrifice, après que les prophètes de Baal aient passé la journée à crier à Baal, à se faire des incisions, à faire toutes sortes de rituels, et que rien ne s'est passé, Élie s'est levé devant le peuple et il a dit, maintenant choisissez. Choisissez qui vous allez servir. L'Éternel ou Baal et les Astartés. Et le peuple a dit, l'Éternel et le feu de Dieu est tombé. La puissance de Dieu est tombée sur le sacrifice. Dieu a manifesté sa puissance et la pluie. Enfin, j'arrive un petit peu plus loin. La pluie, elle est venue. La sécheresse, elle a disparu. Élie, il a tué 400 prophètes de Baal. Waouh, quel bonhomme. 400. Il restait tous ceux d'Astarté, mais il a tué 400 prophètes de Baal. Et Jézabel, elle a piqué une crise. Elle, elle n'a pas supporté. Elle a dit, t'as fait ça, Élie. Je vais te chercher partout et je vais te tuer. Et mon Élie, il a perdu courage. C'est terrible. Il est tombé dans la dépression, tellement il en avait fait. Il était disponible pour faire ce que Dieu voulait, mais c'était trop. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est arrivé au bout. Mais on a un Dieu de grâce. Regardez, la disponibilité, elle engendre le courage. Et il est écrit que Dieu a parlé à Élie. Et lui a dit, dans 1 Roi, chapitre 19 et au verset 16, « Élie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. » Ça veut dire que Dieu veut un homme disponible, un homme qui est courageux, un homme qui n'abandonne pas, un homme qui tient le coup jusqu'au bout. Quelqu'un de disponible, c'est quelqu'un de courageux. Amen. Tourne-toi vers ton voisin et dis, toi, t'es courageux. Maintenant, il est coincé. Où elle est coincée? Faut du courage pour servir Dieu jusqu'au bout. C'est vrai qu'il faut du courage. Parce que si on abandonne, on perd tout. Je ne peux pas abandonner sans rien perdre. La disponibilité engendre le courage. Et la disponibilité engendre aussi une autre qualité. C'est la consécration. Dans 1 Roi, au chapitre 19 toujours, et au verset 19. On va le lire ensemble. Donc, il y aura beaucoup de passages de la Bible. Donc si vous ne voulez pas vous faire mal en lisant en face de vous, des fois c'est plus facile de lire sur ses genoux. Voilà. 1 Roi, chapitre 19, et au verset 19. Il est écrit, Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, je te suivrai. » Il lui répondit, « Va, reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Excusez-moi. Voilà. Ça arrivera encore un petit peu souvent, j'ai le rire. Dieu envoie Élie et lui dit, tu vas aller vers Élisée et tu mettras ton manteau sur lui, sur cet Élisée qui laboure. La Bible, elle dit qu'Élisée, il avait 12 paires de bœufs. Donc, c'était quelqu'un de riche. C'était un paysan qui était riche. C'était le 12e. Il était à la 12e paire. Et c'est lui qui rectifiait les sillons. Quelqu'un de courageux, quelqu'un de disponible, quelqu'un d'efficace dans son travail. Et quand Élie arrive, il vient vers Élisée. Il lui jette son manteau. Parce que le manteau d'Élie, c'était un manteau spécial, fait de peau de bête, enfin toutes ces choses. Et c'était le prophète Élie. Élisée savait à quoi, mais il allait s'attendre en recevant ce manteau sur lui. Il jette son manteau sur les épaules d'Élisée et Élisée comprend tout de suite que c'est Dieu qui l'appelle à remplacer Élie. C'est pas facile hein, de quitter sa charrue. C'est pas facile de quitter ses bœufs. C'est pas facile de tout quitter pour partir où? Pour faire quoi? Pour partir dans l'inconnu? Sans garantie. Hein. Lui, il avait ses bœufs, il avait son revenu, il avait son salaire, il avait tous ces gens qui étaient autour de lui. Et là, il reçoit le manteau et il dit, faut, je quitte tout ça. Quelle garantie j'ai? Quels moyens j'aurai maintenant? J'ai plus de bœufs pour me faire vivre. J'ai plus de travail. Il faut vraiment une grande consécration pour ne dépendre que de Dieu tout seul. Dépendre de Dieu tous les jours. De croire que Dieu veut pourvoir à nos besoins de chaque jour. La disponibilité engendre le courage. La disponibilité engendre la consécration. Il faut être prêt à donner toute sa vie à Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que moi, Raymond, je suis prêt à donner toute ma vie à Dieu? Est-ce que vous l'auriez fait? Partir sans savoir ce qui va vous arriver? Comment vous mangerez? Est-ce que vous allez vous marier un jour? C'est des drôles de questions qu'on peut se poser. Partir, comme Abraham. Partir sans savoir ce qui va y arriver par la suite. Il faut une vraie consécration pour être comme Élie. Élie, c'était un homme puissant. Amen. Et si tu veux être puissant, alors consacre-toi. Élie, il a dit, ben, maintenant, je vais bien ramasser le manteau. Hein. Mais Seigneur, je compte sur toi. Ah, tu ne me lâches pas. Hein. Moi, je suis prêt à relever le manteau, je suis prêt à me consacrer, je suis prêt à être courageux, je suis prêt à être disponible, mais tu vas agir dans ma vie pour me loger, pour me nourrir, pour m'habiller. Tu vas agir pour que ben, les choses elles se passent comme je voudrais qu'elles se passent aussi. Je suis tout seul, Seigneur. Tu veux que je sois puissant? Tu ordonnes que je sois puissant? Alors, Seigneur, agis dans ma vie. La consécration. Élisée a dû dire, mais Seigneur, tu te rends compte ce que tu me demandes? Tu me demandes de partir pour remplacer Élie alors que la Jézabel est toujours là. Hein. Si elle en veut à la peau d'Élie, elle en voudra aussi à ma peau. Moi, je suis bien derrière mes bœufs, je suis tranquille, je t'aime. Seigneur, oh, t'es merveilleux. Mais l'appel de Dieu était tellement fort dans son cœur. Tellement puissant. C'était tellement prenant, il était tellement pris par l'amour de Dieu qu'Élisée a dit, Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je me consacre à toi. Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Alors, il a quitté sa charrue, il a amené ses bœufs, il a sacrifié ses bœufs, il a sacrifié son attelage, il a tout cassé, il a tout brûlé. Il les a fait cuire, il les a mangés, le reste, il l'a donné au peuple, enfin, et aussitôt, il est parti, il s'est consacré. Pour Élisée, il n'y avait pas de plan B. Il a dit, Seigneur, c'est toi et toi seul. Waouh ! Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des femmes disponibles, des femmes courageuses, des hommes et des femmes qui se consacrent à lui pour les rendre puissants. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes pour les bénir. Est-ce que tu veux être cet homme et cette femme que Dieu va bénir? Amen. Et la disponibilité, elle engendre une autre qualité que Dieu recherche chez ceux qui veulent le servir, qui veulent le suivre. La Bible nous enseigne qu'Élisée faisait un travail un petit peu assez surprenant quand il servait Élie. Vous savez le boulot d'Élisée? Je vais vous le dire. Il n'y a rien de... Qu'est-ce qu'il faisait à votre avis? Qu'est-ce qu'il faisait? Comment? Il était serviteur d'Élie, mais qu'est-ce qu'il faisait réellement? Il portait son sac et qu'est-ce qu'il faisait encore? Il versait de l'eau sur ses mains. Ça veut dire qu'Élisée, il avait toujours une bassine d'eau à ses côtés. C'est tout ce qu'il faisait, Élisée. Lui, il était là pour verser de l'eau sur les mains d'Élie. On ne lui demandait rien d'autre. Lui qui avait 12 paires de bœufs. Lui qui était un industriel, enfin on pourrait dire un patron et tout, qu'est-ce qu'il faisait? Il versait de l'eau sur les mains d'Élie, il amenait le petit linge pour les sécher. C'est tout ce qu'il faisait. N'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel? C'est dans 2 Rois, chapitre 3, verset 11, je ne sais pas si on l'avait noté ce verset. N'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions consulter l'Éternel? Les serviteurs du roi d'Israël dirent, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Est-ce que vous seriez prêt à faire cela? Je me rappelle d'un serviteur de Dieu. Il disait toujours, ministère, ça rime avec. Aristide, il s'en rappelle tout le temps. Encore hier, il avait la serpillière. Ministère, ça rime avec serpillière. La disponibilité, elle engendre l'humilité. Le travail d'Élisée, lui, l'ex-riche paysan, était uniquement de servir un homme. C'est tout ce qu'il faisait. Il servait un homme, lui lavait les mains, il n'en faisait pas plus. Il n'avait pas encore la puissance. Il n'avait rien. La seule chose qu'il faisait, Élie faisait. Et Élisée, il arrivait, il mettait la bassine, il versait de l'eau, il essuyait les mains, il jetait l'eau. Élie disait, j'aimerais encore un petit peu d'eau. Et mon Élie repartait. Élisée repartait et il remplissait la bassine et à nouveau, il versait sur les mains. Aussitôt, il est consacré. Il est parti et la Bible nous dit qu'il a servi Élie comme un bon serviteur en toute humilité. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit dans Luc au chapitre 22, au verset 27, « Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Qui est le plus grand? Celui qui mange ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table, dit Jésus? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Jésus est venu comme Élisée pour servir. Il est venu pour servir comme Élisée servait Élie. Et au chapitre 22, au verset 30, il est écrit « Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes. » Ah, j'aime. J'aime. J'aime ça. Être assis sur des trônes. Ça veut dire que si aujourd'hui, il y a des personnes qui sont assises sur des trônes, ce sont des rois. Et si elles sont assises sur des trônes, elles règnent. Et ça, c'est glorieux. Et la Bible dit, Jésus, il a fait toutes ces choses afin que nous soyons assis sur les trônes. La disponibilité, elle engendre le courage. La consécration et l'humilité, a pour quel résultat régner? Pour être assis sur des trônes. Vous vous rendez compte? Vous allez régner. Dis à la personne qui a tôté toi, je suis un roi ou je suis une reine. Comme ça, ça sera merveilleux. Pourquoi? Parce que la disponibilité engendre le courage. Parce que le courage engendre la consécration, parce que la consécration, la disponibilité engendre l'humilité, afin que nous puissions régner. Amen. Jésus, c'est le roi qui s'est installé en dessous de ses sujets. Il est venu pour les servir, mais aujourd'hui, il est assis dans le ciel. Si lui s'est humilié à devenir comme un simple homme, à devenir obéissant comme un simple homme, aujourd'hui Dieu l'a souverainement élevé et l'a mis au-dessus de tous les rois, de toutes les autorités. Il a le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et toi, tu es assis sur le trône de Dieu. Toi, tu es assis à ses côtés. Amen. Quelle grâce! Ouh ! Ça, j'aime. C'est merveilleux. Aujourd'hui, peut-être, tu dis, mais c'est dur ce que je fais. Je suis disponible. Mais bientôt, tu vas régner. Et maintenant, il y a une deuxième qualité. Une deuxième qualité que Dieu recherche chez tous ceux qui l'appellent à le suivre. Et cette qualité, c'est la persévérance. La persévérance, c'est littéralement la continuation, la continuité, la permanence, la constance. Dans le Nouveau Testament, si vous prenez le mot grec, ça signifie littéralement quelqu'un qui ne dévie pas de son but. Ça signifie une personne loyale à la foi, loyale à l'obéissance, loyale à la piété malgré les épreuves. Et si je lis dans 2 Rois au chapitre 2 et au verset 2, On va lire au verset 1 déjà. « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal avec Élisée. » Au verset 2, 2 Rois 2, verset 2. « Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il dit, « Je le sais aussi. » Taisez-vous. Lui, il n'était pas prophète, Élisée. C'était seulement celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Mais Dieu lui parle quand même. Et il répondit, taisez-vous. Élie dit à Élisée, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant. Ça, c'est une belle leçon qu'il avait appris. Il répète toujours la même chose, Élisée. Un têtu, ce gars-là. Reste ici, et l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho, d'autres gens qui étaient là, s'approchèrent d'Élie parce qu'il avait des écoles de prophètes un peu partout, et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il dit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. » Il n'y a pas de pause pour Élisée. Il est toujours à fond. « Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, en frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Élie dit plus rien. Il dit, il va aller jusqu'au bout, alors il va venir avec moi. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et lui dit, tu demandes une chose difficile, hein? Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu. Des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Par trois fois, Élie dit à Élisée, je m'en vais, toi, reste là. Pourquoi Élie fait cela? Pourquoi Élie dit à Élisée, reste là? Pour le mettre à l'épreuve. Et Élisée, qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 je te suivrai, je ne te quitterai point. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Jusqu'au bout, j'irai avec toi. Par trois fois. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut utiliser que des personnes qui veulent persévérer. Dieu n'utilisera jamais une personne qui ne persévère pas. Pourquoi? Parce qu'autrement, tout tombe, tout est perdu. S'il n'avait pas eu la persévérance, Élisée, il n'aurait pas eu la bénédiction. Et il n'aurait pas eu le double de l'esprit d'Élie. Amen. C'est pour ça que Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve avant de nous utiliser, avant que nous soyons ses serviteurs, ses servantes. Il nous éprouve pour savoir jusqu'où nous allons lui obéir et jusqu'où il pourra surtout nous bénir, jusqu'où il pourra manifester sa gloire si je le suis. C'est pour ça qu'il nous met à l'épreuve. Dieu veut nous bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut me bénir. Amen, mais il me met à l'épreuve. Parce qu'il veut une super bénédiction dans chacune de nos vies. Dieu a un but. Et le but de Dieu, c'est toujours le même. Lui aussi, Dieu est têtu. Il est un petit peu comme Élisée. Le but de Dieu, c'est que vous réussissiez dans tout ce que vous entrepreniez pour lui. C'est ça le but de Dieu. C'est un but qui est immuable. Et c'est son but, et c'est très important. Et qu'est-ce qu'il se passe avec Élisée? Regardez. Dans 2 Rois, chapitre 2, au verset 11, quand il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Il est tellement pris qu'il dit un peu n'importe quoi, il voit les choses, mais c'est un petit peu un langage. On se dit, mais il est tellement, tellement heureux, cet Élie. C'est Élisée que ça le dépasse. Char d'Israël, sa cavalerie. C'est vrai qu'il voit un char, il voit une cavalerie, mais il est tellement heureux. Et il ne le vit plus. Il ne vit plus Élie partir. Alors, saisissant ses vêtements, qu'est-ce qu'il a fait? Comme ses bœufs, comme son attelage. Il a fait exactement la même chose. C'est un gars qui est têtu. Il est borné, cet Élisée. Il a pris ses vêtements, il est écrit, il les déchira en deux morceaux. Et qu'est-ce qu'il a pris à la place? Le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, il s'arrêta au bord du Jourdain, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Élisée passa. Amen. C'est merveilleux. Pourquoi le premier miracle d'Élisée est arrivé? Parce qu'il a persévéré à suivre Élie. Alors, il a pu faire ce premier miracle. Il a frappé les eaux avec le manteau et les eaux, elles se sont partagées. Il a fait comme il a vu faire à Élie. Il a frappé les eaux là et les eaux se sont partagées. Et il a pu traverser sans se mouiller. Quelle puissance! Parce qu'il a persévéré, il a traversé le Jourdain à sec. Quelle récompense! Quelle récompense! Pas qu'il ait traversé le Jourdain à sec. Quelle récompense! Parce qu'il a persévéré, parce que Dieu a éprouvé Élie, parce qu'il a voulu connaître ses qualités. Et quand il a vu qu'il persévérait, il a dit, ça c'est le bonhomme que je veux. Voilà un gars comme ça que je veux. Ça aurait été une femme, c'est exactement la même chose. Il aurait pu dire, c'est celle-là que je veux. Quelqu'un sur qui je peux faire reposer ma puissance. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont puissants. Alléluia. Quelle grâce. Dans Romains au chapitre 5 et au verset 3, il est écrit « L'affliction produit la persévérance, et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, elle produit l'espérance. » Amen. Dieu, c'est le Dieu de la persévérance. C'est écrit au chapitre 15 au verset 5. Le Dieu de la persévérance. Lorsqu'ils eurent passé, au chapitre dans 2 Rois, chapitre 2, verset 9, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. » Élisée dit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Il en avait peut-être un peu marre de verser de l'eau sur les mains d'Élie. Mais il n'en a jamais eu marre de Dieu. Il a toujours voulu servir Dieu. Amen. Et Élie a vu, et lorsqu'il a vu Élie monter au ciel, la Bible dit qu'il a reçu une double portion de la puissance d'Élie, la puissance du Saint-Esprit. On dit qu'Élie a fait 10 miracles, je crois, ou 11 miracles. Élisée en a fait le double. 23, je crois. Incroyable. Et encore après sa mort, oui. Mais en tout, voilà, ça c'est incroyable. Même quand il était mort, la puissance de Dieu, elle agissait encore. Quelle grâce! Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a persévéré, parce qu'il a été mis dans l'épreuve pour la persévérance, amen. Et par la persévérance à bien faire, il a reçu la puissance de Dieu dans sa vie. Il a frappé le Jourdain, l'eau, elle s'est ouverte. Quelle grâce! C'est glorieux! Parce qu'il a persévéré, il a pu demander le double du Saint-Esprit qui était sur Élie. S'il n'avait pas persévéré, est-ce qu'il aurait eu le double du Saint-Esprit? Non. Est-ce qu'il aurait pu frapper les eaux pour qu'elles s'ouvrent? Non. Mais parce qu'il avait cette disponibilité, parce qu'il avait cette persévérance, Dieu l'a béni. Amen. Dieu nous met à l'épreuve pour voir si nous allons persévérer jusqu'au bout. Pour voir si nous allons nous soumettre malgré les choses qui arrivent à sa volonté. Regardez Adam. Adam, c'est quelqu'un qui lui aussi a été mis à l'épreuve. Dieu y a dit, voilà, tout est à toi. Même le fruit de l'arbre, la connaissance et du bien et du mal, il est à toi, mais tu ne le touches pas, puisque tu es là dans le jardin. Il est à toi, mais tu ne le touches pas. Pendant un temps, ça a marché. Et puis, à un moment donné, il a dit, non, résultat, on le connaît. Il a tout perdu. Il a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée dans la création. Dieu lui avait dit, domine sur tous les animaux de la terre, sur toute la création. Vous vous rendez compte? Les animaux, le lion, la hyène, les tigres, les éléphants, ils venaient devant Adam et lui disaient « Toutou !» Et eux, les animaux, ils ne bougeaient pas. Pourquoi? Parce qu'il avait l'autorité. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée dans son couple, dans son travail, Par manque de persévérance, il a gâché le plan de Dieu pour sa vie. Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a mis des projets dans votre cœur. Dieu a mis des rêves dans votre cœur. Dieu désire vous utiliser pour sa gloire. Mais jusqu'où veux-tu aller? Jusqu'où on veut aller? Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Jacob. Un jour, il a lutté avec Dieu. Jacob, c'était un trompeur, c'était un menteur, c'était un magouilleur. Mais il avait fait une rencontre avec Dieu. Et un jour, il a lutté avec Dieu, toute une nuit. Et alors que le matin venait, l'ange de l'Éternel lui a dit, « Laisse-moi. » Il a dit, « Non. On va continuer jusqu'au bout, même s'il fait jour, et puis s'il faut continuer le lendemain, le surlendemain, je le ferai. Je ne te quitterai pas que tu ne m'aies béni. » C'est ce que Jacob a dit à l'ange de l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'il voulait la bénédiction de Dieu. Et j'aime ce Jacob. Parce que Jacob, il avait, même s'il avait des défauts dans sa vie, il avait cette qualité qui est la persévérance. Parce que la Bible dit, et c'est ça que je retiens de Jacob, Jacob, cet homme qui mourut en adorant sur son bâton. Vous vous rendez compte, ils l'ont trouvé, Jacob, sur son bâton, en train d'adorer Dieu, et il était mort. Quel bonhomme! La persévérance amène. Un homme a écrit, je ne veux pas trop m'attarder, un homme a écrit, j'ai découvert que la persévérance est d'une des facultés spirituelles les plus importantes de la vie chrétienne. Charles Spurgeon disait, c'est la persévérance qui a permis à l'escargot d'atteindre l'arche de Noé. Le manque d'endurance est l'une des principales causes d'échec, particulièrement dans la prière. Nous ne savons pas attendre. Nous ne savons pas attendre. Il nous faut du micro-ondes, mais Dieu, lui, préfère les plats maridés. Ça veut dire, soyons persévérants. C'est la qualité la plus grande de persévérer jusqu'au bout, de ne rien lâcher. Et si vous persévérez, vous aurez des résultats dans votre vie, dans vos familles. Tenez bon jusqu'au bout, vous allez gagner vos enfants, vous allez gagner vos maris, vous allez gagner vos épouses, amen. Vous allez gagner ceux qui vous entourent, amen. C'est Dieu qui va vous les gagner. Si vous dites, Seigneur, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni, vous avez une puissance, tu deviens puissant et Dieu te bénit toute ta vie. Toi, ton épouse, tes enfants, il y a une bénédiction qui va couler de toi. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Amen. Mais à moi d'être disponible, à moi d'être persévérant. Dans Hébreux au chapitre 10 et au verset 35, il est écrit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Encore un peu. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste, par la foi, vivra, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Jusqu'au bout, la disponibilité liée au courage, la consécration, l'humilité et la persévérance nous ouvrent les écluses de la bénédiction divine, les écluses de la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Et quand Dieu trouve quelqu'un qui est disponible et de persévérant, il le bénit. Amen. Vous avez droit aux bénédictions. Tu as droit à la bénédiction de Dieu. J'ai droit à la bénédiction de Dieu. Si tu es persévérant. Si tu es disponible, vous avez le droit de demander des bénédictions que Dieu veut vous donner, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Deutéronome, je vais vous dire 2-3 versets, après on s'arrêtera là. Deutéronome chapitre 28 au verset 2 à 6. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Amen. Ça sent tout seul. C'est formidable. Wow. Je n'ai même pas vu Ézéchiel passer derrière moi. C'est merveilleux, Ézéchiel. Wow. Ils sont super, ces gars-là. Deutéronome chapitre 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Parce que tu seras disponible, parce que tu seras persévérant. Le principal ennemi qu'on a, c'est le diable. Si vous vous engagez vraiment, vous verrez que le diable n'a pas le droit sur vous. Vous serez vainqueur de vos passions, vainqueur de vos addictions, vainqueur sur votre mauvais caractère, vainqueur sur la paresse, vainqueur sur l'orgueil, amen. Vainqueur sur toute la puissance de l'ennemi, amen. Pourquoi ? Parce que Dieu veut te bénir. Deutéronome 28, verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Oh Seigneur, Dieu va ordonner à la manifestation de la puissance de Dieu d'entrer dans ta vie. Pourquoi Dieu a permis qu'Élisée soit éprouvé ? Pourquoi Élie a-t-il éprouvé Élisée ? Pour le bénir au double. Amen. J'aime cet homme, Élisée. Lui, il ne s'est pas concis, il ne s'est pas contenté du bas de gamme. Le luxe. Moi, je veux le luxe. Ne te contente pas du bas de gamme. Choisis la double, la triple, la quadruple bénédiction. Choisis la puissance de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux demander ce matin au Seigneur ? Qu'est-ce que tu veux demander ? Élisée, il a dit, Seigneur, je veux le double de la portion de l'Esprit qui est sur Élie. Et résultat, il l'a eu. Voilà pourquoi Dieu nous éprouve. Pour qu'en retour, je sois persévérant. Persévérant à faire le bien. Persévérant dans la foi jusqu'au bout. Et quand Dieu voit dans notre vie cette persévérance, quand Dieu voit dans notre vie cette disponibilité, quand Dieu voit ces choses, alors il jette sur nous le manteau de sa puissance. Amen. Alléluia. Saisissez le manteau de la puissance. Saisis-le ce matin. Dieu a besoin d'hommes et de femmes puissant. Dieu a besoin de toi pour sauver le monde. Amen. Est-ce que vous avez le désir de sauver le monde ? Est-ce que vous avez le désir que Dieu agisse dans votre vie ? Relève ce manteau. Relève ce manteau de la puissance. Sois persévérant, sois disponible. Et la double bénédiction, la double portion, la triple, la quadruple, toute la puissance de Dieu, elle est à toi. Parce qu'il est écrit, tout est à vous. C'est écrit dans la parole de Dieu. Tout est à moi, rien pour toi. C'est pas vrai, il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit, tout est à moi, mais tout est à toi. Et ce que je dis moi, dis-le aussi pour toi. Tout est à moi. Christ est à Dieu, alléluia. Et quelle puissance dans notre vie. J'ai envie d'être persévérant, j'ai envie d'être disponible, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des afflictions, même s'il y a des difficultés dans ma vie. Seigneur, tu me mets à l'épreuve, afin que je puisse voir ta gloire, afin que je puisse me mettre devant toi, parce que sans toi, je ne pourrais rien faire, parce que sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, tout est possible. Alléluia, quelle grâce. On a un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est puissant, mais surtout un Dieu qui veut agir dans ta vie, qui veut t'utiliser, parce que le monde a besoin d'être sauvé. Et on dit amen, amen Seigneur, amen mon Seigneur et mon Dieu. Que le Seigneur soit béni, alléluia. Et si ce matin vous n'avez peut-être pas encore donné votre vie à Dieu, si ce matin vous avez peut-être dit, Seigneur, je ne sais même pas trop de quoi il parle de persévérance, de disponibilité. Mais Seigneur, moi j'aimerais te connaître. Ce Dieu qui a rempli Élie de sa puissance, de son onction, de son autorité, qui a fait que Élisée soit un puissant serviteur de Dieu, qui a fait que ceux bien qu'ils soient là soient prêts à se lever le matin pour venir chaque dimanche entendre la parole de Dieu et faire d'autres choses. Ce Dieu-là, je veux le connaître. Vous êtes là devant Dieu ce matin ? Ce Dieu si merveilleux, ce Dieu si puissant, ce Dieu si grand, ce Dieu qui nous aime tellement, qui nous dit, je t'aime, je te protégerai, puisque tu m'aimes, je te délivrerai, puisque tu me connais par ton nom, par mon nom, alors j'agirai dans ta vie. Ce Dieu, si tu ne le connais pas encore, ce Dieu, si tu n'as pas fait le pas de lui dire, moi je veux t'appartenir, moi je veux te servir. Moi aussi, peut-être, dans quelques temps, j'aimerais cette puissance, cette onction, cette vie est bien de bénédiction. Alors, simplement là où tu l'es, reçois-le dans ton cœur. On va fermer les yeux. On va se mettre devant Dieu, c'est entre toi et Dieu, c'est personnel. Et je vais compter jusqu'à trois, et à trois, je demanderai de lever ta main. Simplement en disant, oui Seigneur, je veux t'accepter dans mon cœur. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu me transformes. Je veux que ma vie, eh bien, soit une vie comme tu le désires. J'ai déjà galéré, Seigneur, peut-être jusqu'à maintenant, ça fait des galères. Mais je sais qu'aujourd'hui, avec toi, tout peut être changé. Aujourd'hui, je veux avoir une espérance. Aujourd'hui, je veux bien pouvoir moi aussi être assis dans le ciel, à cette table où tu vas me servir. On a les têtes baissées. Qui ce matin veut recevoir Jésus-Christ dans son cœur? Hein? Seigneur, j'ouvre mon cœur. Ta parole, elle a pénétré, elle a frappé mon cœur. Maintenant, Seigneur, je veux l'ouvrir. Deux, Seigneur, je veux croire. Croire que ce que tu as fait, tout ce que tu as souffert, toutes ces choses, cet amour que tu as manifesté, c'est pour moi personnellement aussi. Et trois, Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie. Je t'accepte comme mon maître et mon sauveur. Lève ta main. Pendant qu'on a les têtes baissées, moi je vais prier pour vous. Je vais prier pour toi afin que Dieu agisse dans ta vie. Seigneur, tu bénis. Seigneur, tu bénis. Seigneur, tu bénis. Seigneur, tu vois ces mains levées. Tu bénis encore, Seigneur. Oh Seigneur, que ta grâce puisse couler sur chacun et chacune de ceux et de celles qui se sont tournés vers toi et qui t'acceptent dans leur cœur comme leur maître, comme leur Seigneur, et que la bénédiction de Dieu soit dans leur vie, dans le nom précieux de Jésus. Et on dit amen, alléluia. Et pour vous encourager, vous qui avez, merci Nadine, pour vous qui avez levé votre main, on voudrait vous encourager en vous donnant une boîte à outils merveilleuse, la parole de Dieu. Vous avez tout pour réussir votre vie, pour bâtir votre vie. Vous pourrez venir nous voir à la fin, des personnes vont vous donner votre Bible. Et si on ne vous l'a pas donnée, réclamez-la. Dites, soyez têtu comme Élisée, je ne te quitterai pas. Je sais que l'Éternel est vivant, j'ai besoin de la Bible. Amen. Vous pouvez applaudir Nadine, elle est merveilleuse. On a un Dieu de grâce. Et pour continuer encore, juste avant de terminer, on a parlé de jeûne. Le jeûne, vous pouvez, on ne vous a pas donné de date. À part au mois de février, première semaine de février, on va faire un jeûne avec toute l'Église. Mais si vous voulez commencer le jeûne à partir de maintenant, ou peut-être demain, ce sera peut-être plus simple, vous pouvez le faire. Sentez-vous libre de faire, eh bien, ce jeûne. Et si vous voulez le faire une semaine, faites-le une semaine. Si vous voulez le faire, comme disait Matthieu, un jour, ou deux jours, ou trois jours, ou 21 jours, ou 40 jours, faites-le. Et si vous voulez vous associer avec quelqu'un dans le jeûne, allez trouver cette personne et dites-lui, j'aimerais bien m'associer avec toi. Si elle vous dit non, hein, ne lui en voulez pas. C'est un choix. D'accord? Donc vous pouvez commencer quand vous voulez. Si quelqu'un s'associe avec moi, pas ce soir, ni demain soir. Hein? On va attendre la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Amen.
Amen.
Et encore une chose. Ils font un travail merveilleux. C'est incroyable. Tous les dimanches, ils sont là, que ce soit cette équipe ou une autre équipe, et derrière à la production, mais c'est des champions. C'est des champions, c'est des Élisées qui versent de l'eau sur les mains et bien de CP, amen, pour que la gloire de Dieu elle soit manifestée. Bravo.